Kandaka sur 103.
Nous restons dans les registres aériens ou dans les registres transports et voies de communication. À l'équateur, un appareil DC-9 de la compagnie d'aviation Bravo Air Congo a effectué un vol en détresse mardi dernier entre Gemena et Mbandaka. Alors qu'il prenait son envol, cet avion a connu au décollage une crevaison de pneus du train arrière avant de faucher un militaire qui est mort sur le coup. Ce DC-9 reste encore immobilisé au tarmac de Mbandaka pour sa réparation. Quelles peuvent être les causes de cet accident et quelles sont les dispositions à prendre pour éviter ce genre de situation à l'avenir? Nous allons peut-être éclairer l'interne de nos auditeurs avec notre invité qui n'est que M. Yuma, directeur technique à la compagnie d'aviation Eoabora, qui nous donnera des précisions comment se fait le contrôle technique d'un avion. Alors nous avons en ligne Paul Richard Malengela. Paul Richard, vous êtes avec nous?
Effectivement, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, Paul Richard, faites-nous d'abord un bref récit de cet accident qui a eu lieu mardi dernier.
Eh bien, cet appareil 209 de Bravo Air Congo, immatriculé 9QCTD, devait quitter l'escale de Gemena pour Kinshasa. À son bord, il y avait 7 membres d'équipage et 74 passagers, dont 5 enfants. À la tombée du jour, après s'être rangé sur la piste de décollage, l'avion a commencé à prendre son envol. C'est alors que 2 pneus du train arrière vont éclater. L'appareil déséquilibré a pu tout de même continuer sa course et prendre de l'altitude. Selon le chef d'escale de Bravo Air Congo Mbandaka, ce DC-9 ne pouvait plus poursuivre son routing normal Gemena-Kinshasa. Il a dû rentrer à son escale précédente, c'est-à-dire en Mbandaka, où il a atterri en détresse mardi soir vers 19h. Quelques passagers décrivent les difficultés connues pendant ce vol.
Comme c'est mon auxiliaire, moi-même, j'étais dedans, je peux dire que cette fois-là, ce n'était pas un problème d'appareil, c'était un problème de conscience. Selon mes interlocuteurs, au moment où on me dit que l'air via Gemena interdisait aux pilotes qu'ils ne puissent pas décoller la nuit. Soit pour des raisons commerciales, le pilote a préféré décoller la nuit. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a décollé là en catastrophe jusqu'à un atterrissage forcé en Mbandaka. L'appareil comme tel n'était pas mauvais, mais c'est le pilote qui a manqué la conscience.
On est arrivé maintenant à Gemena. La pluie commence à tomber, la nuit est devenue. Maintenant, ça commence à frapper boum boum. Et puis le feu commence à sortir à le côté des ailes, l'avion veut tomber. J'ai pleuré.
Et toi, tu ne pleurais pas? Qu'est-ce que tu faisais?
Je priais. Dieu, le Seigneur nous garde.
Et puis, quand vous êtes arrivé en Mbandaka pour atterrir, qu'est-ce qui s'était passé?
On était atterri à vitesse, on voulait même tomber.
Ensuite, qu'est-ce qui s'était passé? Tous les gens qui étaient descendus étaient à l'aise.
Quand ils étaient descendus de l'avion, ils sont fatigués, commencent à dormir. La femme de pasteur, là, lui aussi, le pasteur, la femme. Quand l'avion voulait tomber, ce maman l'avait piqué, le cul, il commence à marcher pieds nus.
Voilà, c'est vraiment une scène pas beau à entendre. Voilà, donc c'est vraiment triste à entendre cet enfant. Paul Richard, quelle explication la régie des voies aériennes donne-t-elle à cet accident qui a été évité de justesse, semble-t-il? La RVA s'y est opposée, selon nos sources.
Oui, hier, d'abord, au niveau de Gemena, le commandant de l'aéroport a déploré l'attitude du commandant du DC-9. L'aéroport de Gemena a dit Monsieur Jean-Pierre Ngondo n'a pas de balise. Il ne fonctionne que à la lumière du jour, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. Il réserve la primaire de son rapport à la hiérarchie. Mais tout de même, selon lui, le pilote du DC-9 ne se serait pas conformé aux normes de décollage, ce qui expliquerait cet accident. On écoute M. Jean-Pierre Ngondo.
Ce que je peux vous dire à cet instant, c'est que le DC-9 a effectivement atterri à Gemena à 16h20, temps universel. Et on avait déjà signifié aux pilotes qu'ils ne pouvaient pas décoller de Guémena, puisque nous sommes un aéroport qui travaille du lever au coucher du soleil. Le pilote, qui n'a même pas déposé de plan de vol, il n'a même pas déposé de formulaire de trafic arrivée et départ, ni le manifeste de passagers et consorts. Alors, en voulant faire ces manœuvres-là, il s'est écarté de l'axe de la piste pour se retrouver sur la bande de sécurité. Et c'est là qu'il a pu décoller avec ce qu'il a eu.
Donc il y a encore un autre problème qui vient de s'ajouter. À part les Antonov, il y a aussi le non-respect des normes de décollage. Là, c'est avec les pilotes. Donc c'est pratiquement la maladresse de pilotes que cet accident est arrivé. Alors, Paul-Richard Malengela, semble-t-il qu'il y a une polémique sur les dégâts causés par cet appareil au décollage à Guémena?
Oui, JR, d'après des images tirées sur les lieux qui sont parvenus, qui nous montraient comment l'avion a pu décoller, nous pouvons dire qu'après la crevaison des pneus du train d'atterrissage gauche, l'avion s'est effectivement détourné de sa trajectoire. Le corps d'un élément de la force aérienne a été retrouvé sur le sillon laissé par l'avion sur la bande de sécurité. Celui-ci serait tué sur le coup. Mais une polémique est engagée actuellement sur cette mort. L'enquête se poursuit pour déterminer si la victime serait réellement fauchée par l'avion. Étant donné la nature de la plaie sur la tête et le fait que le sergent-major Angbo Gua, c'est le nom de la victime, n'était pas de service à cet endroit au moment de l'accident.
Oui, et nous apprenons qu'à l'arrivée en Bandaka, où l'appareil s'est posé également en difficulté, les pilotes ont été entendus sur PV. Quel constat la RVA a-t-elle fait sur cet accident?
Oui, selon le commandant de l'aéroport de Mbandaka, M. Mathieu Boyengele, le pilote du DC-9 a effectivement été interrogé sur les faits. Pour lui, il y a eu manque de collaboration entre le commandant de bord et la tour de contrôle de Guémena. Il donne les premiers éléments de son appréciation de cet accident.
J'ai assisté moi-même à l'atterrissage de l'avion et je vous le confirme que tout pouvait tourner au drame. Heureusement que ça s'est passé très bien. L'avion a atterri avec deux trains d'atterrissage qui ont éclaté. Et puis il y a, on appelle les flaps, il y a une autre partie qu'on appelle aileron. Cette partie-là a été endommagée. Il y a aussi un moteur qui ne fonctionnait plus. Mais le commandant de bord, lui, attribue les causes de l'accident à la crevaison de train d'atterrissage gauche. Nous avons eu à faire un constat amer. Lorsque nous lui avons posé de nous présenter le plan de vol de Guémena, nous avons trouvé que ce plan de vol n'est pas contresigné par la tour de contrôle de Guémena. Ça, implicitement, laisse présager qu'il n'y a pas de collaboration entre le pilote commandant de bord avec la tour de contrôle de Guémena.
Paul-Richard, l'incident de mardi dernier n'aurait-il pas créé une fausse publicité pour la compagnie Bravo Air Congo?
Certes, JR, l'incident a paniqué les passagers à bord qui ont été évacués d'ailleurs le lendemain dans un autre appareil de la même compagnie. L'avion accidenté est encore au sol au tarmac de Mbandaka. Des mécaniciens venus de Kinshasa poursuivent l'entretien du DC-9. Entre-temps, les usagers hésitent encore à prendre le vol Bravo. À peine une poignée de passagers de Mbandaka s'est embarquée le week-end dernier pour Kinshasa. Parmi les rares voyageurs, il y avait le gouverneur de l'Équateur, José Makila. Il a tenu ainsi, avec ses collaborateurs, à exhorter sa population à appuyer cette compagnie qui contribue à désenclaver l'Équateur chaque semaine. Même réaction du chef d'escale de Bravo Air Congo Mbandaka. Il parle, lui, plutôt d'une intoxication contre Bravo Air Congo qui, ajoute-t-il, fonctionne régulièrement.
Monsieur c'est François pas le premier Carmel. Avion qui a fait péter son pneu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais la finalité dans tout cela, c'est de sécuriser le passager et de le faire parvenir à bon port.
Est-ce que vous garantissez cela à vos clients?
Bien sûr que oui. Comment? Nous sommes les meilleurs, nous assurons leur sécurité. Nous faisons tout pour rendre leur voyage agréable en respectant toutes les normes.
Est-ce que vos appareils sont en conformité avec les normes de la DAC, Direction d'Aviation Civile?
Affirmatif, parce que les appareils n'opèrent pas comme ça. Parce qu'il y a des autorisations qu'on accorde.
Selon le commandant de Guémena, le commandant à bord n'aurait pas déposé le plan de vol. Cela n'est pas une habitude au sein de votre compagnie?
Négatif. Un avion ne peut pas décoller si le plan de vol n'est pas approuvé. Comme je n'étais pas à Guémena, je ne saurais pas donner de plus amples précisions là-dessus.
Voilà, qui dit vrai dans cette affaire? Nous aurons peut-être des réponses auprès de qui de droit. Mais comment la RVA, Paul Richard Malengela, pouvait-elle permettre à un avion n'ayant pas déposé son plan de vol de décoller tout de même?
Question pertinente, JR. Les enquêtes sont encore en cours et il est difficile au stade actuel de savoir toute la vérité. Il faut tout de même noter que le commandant de l'aéroport de Guémena séjourne depuis le week-end dernier à Kinshasa pour déposer son rapport, tandis que son collègue de Mbandaka va aussi envoyer le sien à la hiérarchie nationale. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'une délégation de la direction de l'aviation civile, DAC, vient d'arriver à Mbandaka pour des investigations. C'est vrai que le ciel congolais est devenu assez cruel ces derniers temps, avec des crashs successifs, notamment des Antonov. Cependant, selon M. Mathieu Boyengele, commandant de l'aéroport de Mbandaka, cet accident sort de l'ordinaire. Il faut se refuser de faire des conclusions hâtives pour établir les responsabilités des uns et des autres. Nombre d'observateurs ici à Mbandaka estiment que l'espace aérien, ou mieux l'aviation congolaise, a besoin d'être assainie JR. Et nous espérons que la lumière sera faite par notre invité.
Nous avons été au Kassai occidental pour en parler. Là déjà, l'exécutif provincial s'est mis au travail pour organiser un atelier sur la sécurisation du secteur aérien au Kassai occidental. Nous pensons qu'il serait aussi temps au niveau de l'Équateur pour que l'exécutif provincial puisse s'organiser dans ce sens. Paul Richard Malengela, on s'arrête là avec vous et à la prochaine.
Je vous en prie, JR.
Okapi, c'est vous. Okapi.
Monsieur Yuma, directeur technique à la compagnie d'aviation Ewabora, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Alors, d'aucuns ne savent pas comment s'est fait concrètement le contrôle technique d'un avion avant son vol, avant le décollage.
Merci beaucoup. Je commencerai tout d'abord par introduire en vous disant que les avions, ce sont des machines ou des appareils très sophistiqués construits par des usines très spécialisées aux États-Unis ou en Europe sur base d'une technologie très avancée qu'on appelle technologie de pointe. L'on doit savoir que quand un avion décolle d'une piste avec son propre poids, qui se range dans les centaines de tonnes, selon la catégorie bien sûr de l'avion, avec le poids du carburant qui se chiffre aussi en centaines de tonnes, et le poids des passagers et leurs bagages qui se chiffre en dizaines de tonnes, cet avion, disais-je, doit vaincre les lois de la nature, notamment la pesanteur, pour se soulever en l'air avec tous ces poids que j'ai énumérés tout à l'heure et rester évoluer en l'air depuis le point de départ jusqu'à la destination en obéissant à toutes les commandes faites par les pilotes. Cela suppose que ces machines, les avions, disais-je, doivent être entretenues selon un système très rigoureux, un système basé sur les normes ou les recommandations des constructeurs de ces machines et qui sont également renforcées par d'autres normes édictées par les organisations internationales de l'aviation civile. Je citerai notamment l'OACI et ainsi que les organismes officiels de l'aviation civile des différents pays d'immatriculation. S'agissant de la RDC, les normes officielles nous sont édictées par la direction de l'aéronautique civile au Congo. Bon, maintenant, je vais parler très rapidement.
Oui, du contrôle.
Du contrôle.
Comment ça se fait avant le décollage?
Contrôler avec une rigueur systématique. Et ces contrôles sont rangés en plusieurs catégories. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'inspection journalière. C'est une inspection qui se fait chaque jour à raison de 24 heures de validité à chaque retour d'un avion à la base principale après avoir effectué les vols programmés dans la journée. C'est une inspection très importante parce qu'elle est basique et elle permet de vérifier chaque jour, essentiellement le soir quand les avions reviennent dans le hangar, parce que la toute compagnie aérienne sérieuse, digne de ce nom, doit disposer des installations techniques, des infrastructures techniques. C'est comme un garage pour les véhicules. On ne peut pas entretenir les avions en plein air comme cela est le cas dans notre pays. Il suffit de passer à l'aéroport international d'Ndjili et voir toutes ces compagnies dites des grandes compagnies qui n'ont aucune installation et qui entretiennent les avions en soi-disant entretenir en plein air. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'inspection journalière. Elle est capitale. Elle permet de voir tous les circuits vitaux de l'avion chaque soir pour s'assurer que ces circuits sont opérationnels.
Monsieur Yuma, vous êtes directeur technique à la compagnie d'aviation Yabora. Est-ce qu'un avion peut décoller sans plan de vol?
Bon, c'est impossible, ça ne se fait jamais, c'est dans les procédures internationales. Hein. Le plan de vol, c'est le document, le dernier document parmi tant d'autres documents de bord. C'est le dernier document qui est délivré par la RVA ici chez nous. Ailleurs, c'est d'autres organismes des régies de voies aériennes. Le plan de vol est essentiel. S'il n'y a pas de plan de vol, il n'y a pas de vol. Quel que soit, même un avion qui sort d'usine ne peut pas décoller d'un aéroport sans plan de vol. C'est exclu.
Oui, alors, quels sont, pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, quels sont les éléments qui peuvent être à la base d'un crash d'avion?
Ben, les facteurs, les causes sont d'ordre multiple. D'ailleurs, je n'avais pas encore terminé de parler de l'inspection ou des contrôles qu'on appelle entretien des avions ou maintenance des avions. Il y a plusieurs catégories. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'inspection journalière. Il y a des inspections qui se font à un rythme un peu plus élevé, notamment les différents checks, nous appelons check A, check B, check C, check D. Le check A, notamment sur les avions de type Boeing 727, parce que c'est notre avion de référence, se font toutes les 150 heures. Le check B, toutes les 750 heures. Le check C, toutes les 3000 heures de vol. Et le check D, dans l'ordre de 12000 heures de vol. Ce sont des checks, des inspections extrêmement importants qui doivent être accomplis, et faute de quoi un avion ne peut pas d'abord avoir les documents de bord, ce qu'on appelle les documents de bord, notamment le certificat de navigabilité qui est livré par la direction de l'aéronautique civile. C'est d'abord ça. Bon, et il y a d'autres documents, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre à votre question, qu'un avion, n'est-ce pas, puisse voler les causes des crashs des avions. Les causes des crashs des avions sont d'ordre multiple. Il y a ce qu'on appelle les facteurs humains. C'est notamment les causes liées à des erreurs de pilotage. Cela arrive. Il y a des causes qui sont liées à la navigabilité, donc au mauvais entretien des avions, donc le non-respect des procédures d'entretien des avions. Quelque part, soit on a entretenu, mais on n'a pas entretenu correctement, on n'a pas suivi toutes les procédures qui sont édictées par les constructeurs des avions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les avions, ce sont des machines très, très, très complexes. On ne fait jamais rien au hasard. Même dans les usines chez Boeing, par exemple, où nous avons été plusieurs fois, il n'y a pas place à la routine. La routine n'existe pas. Toute action qu'on doit prendre pour... Si on doit toucher sur un avion...
Oui, Monsieur Yuma, nous rappelons une fois de plus à nos auditeurs que vous êtes le directeur technique à la compagnie d'aviation Yabora. Est-ce que parmi les causes, les éléments à la base d'un crash, on peut aussi signaler l'excès de poids dans un avion?
Bien sûr, c'est ça aussi, c'est très important. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les avions sont fabriqués avec des limitations, n'est-ce pas, de poids. Le propre poids des avions sont limités et l'avion ne peut pas décoller au-delà d'un poids qui qui est fixé par le constructeur.
Oui, mais bon nombre de gens nous disent aujourd'hui que bon, il y a aussi un autre problème, c'est les bagages à main. Dans bien des cas, les passagers exagèrent toujours en ce qui concerne les bagages à main.
Bon, les bagages à main, en toute vérité, ne devraient pas vraiment influencer le poids de l'avion au point de provoquer un crash. Parce que les bagages à main, quoi qu'il en soit, ne devraient pas dépasser une vingtaine de kilos par passager. Et les avions sont aussi faits, ils sont construits de façon à avoir certaines tolérances dans les marges de dépassement de poids. Les vrais poids qui causent des problèmes, c'est essentiellement les poids de passagers. Un passager représente quand même un poids donné, mais c'est beaucoup plus le poids des bagages que l'on met dans les soutes, hein, les bagages que l'on met dans les soutes. Parce que il y a des excédents de bagages, comme vous le savez. Ces excédents de bagages doivent être aussi limité pour pouvoir se conformer aux limitations de poids qui sont données par les constructeurs. Je vous ai dit, chaque avion est caractérisé par des limitations de poids. On les appelle les limitations structurales. Elles sont très importantes. Au décollage, il y a une limite. Quand on dépasse, on appelle pouvoir décoller en surcharge. Ça a des conséquences, notamment sur les performances de l'avion. L'avion, je dois vous dire, que est fait pour vaincre les lois de la nature, notamment la pesanteur. Quand l'avion doit prendre son envol, il se développe des phénomènes aérodynamiques, ce que nous appelons la poussée, qui se développe sur les ailes des avions. Et cette poussée doit vaincre le poids total que possède l'avion, c'est-à-dire le poids de l'avion lui-même, le poids du carburant, le poids des bagages, et cette poussée doit dépasser tous ces poids pour que l'avion se soulève au bout d'une certaine distance, n'est-ce pas, sur la piste d'envol.
Oui, monsieur Yuma.
Comme je disais tout à l'heure, oui. Vraiment, l'une des causes, et je crois les statistiques démontrent dans les différents cas de crash qui se produisent.
Oui, vous savez que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de crash hein, en RDC. Et nous avons, par exemple, eu le crash au niveau de la commune de Kimbanseke, hein, le quartier Kingasani, où il y a un avion qui est tombé dans un des sur ce quartier. Vous avez également appris peut-être qu'il y a aussi un autre crash à Mbandaka. Il y a un avion qui atterrit de façon brusque.
Tout à fait.
Bon, il y a eu des crashs un peu partout ces derniers temps. Alors, la population s'inquiète, elle s'interroge. Quelles sont les causes de ces crashs? Jusque-là, on n'a pas eu de précision. Vous, en tant que spécialiste, vous pouvez peut-être avoir une idée à ce sujet.
Bon, ok, merci madame. C'est vrai, la population a raison de s'inquiéter. Et la population doit être protégée. Et ce n'est pas pour rien que les États se sont organisés pour avoir au sein de leur dispositif étatique des organismes de l'aviation civile. Bon, quant à déterminer les causes des crashs auxquels vous venez de faire allusion tout à l'heure, normalement, c'est à la commission d'enquête qui est instituée de pouvoir déterminer la cause ou les causes.
Oui, mais vous, en tant que directeur technique des Wabora, vous avez une idée.
Il y a beaucoup de facteurs, oui. N'est-ce pas, additionnels, qui font que tout ça mis ensemble, l'état d'entretien de l'avion, les problèmes de pilotage, les problèmes d'exploitation, notamment avec du poids exagéré, les puissances même des moteurs, parce que vous savez, pour qu'un avion puisse décoller, c'est la poussée et les...
Ça, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit.
Les moteurs qui donnent une certaine vitesse à l'avion, et avec cette vitesse, il y a des phénomènes aérodynamiques.
Monsieur Yuma, aujourd'hui, juste une précision en ce qui concerne le contrôle. Le contrôle, avant qu'un avion ne puisse décoller, se fait par qui? À quel niveau? Est-ce que c'est une compagnie extérieure qui doit établir le contrôle?
Négatif, madame. Le contrôle se fait d'abord au sein de la compagnie. C'est la compagnie qui est responsable numéro un de l'état technique de l'avion, des contrôles. En faisant les inspections, comme je vous ai dit tout à l'heure, les inspections journalières, les checks A, B, C, D, en respectant, n'est-ce pas, les fréquences qui sont prévues. C'est d'abord la compagnie. Et en deuxième ressort, il y a l'aéronautique du pays qui vient ici chez nous, c'est tous les 6 mois, contrôler, n'est-ce pas, que la compagnie a correctement effectué les contrôles sur ces aéronefs et valider maintenant les documents, notamment les documents que j'ai énumérés tout à l'heure, les certificats de navigabilité qui donnent la validité.
Donc ça veut dire que pour là où il y a eu des crashs, ça signifie que le travail n'a pas été bien fait.
Mais ça, madame, je pense que on peut dire ça. C'est-à-dire, il faut voir aux différents niveaux. D'abord au sein de la compagnie et ensuite, bien sûr, au niveau de...
Oui, du fait que... oui, mais c'est lui-même.
S'assurer que la compagnie a correctement...
fait son travail. Oui, comme la commission d'enquête n'a pas encore livré ses secrets, nous allons peut-être attendre que cette commission puisse, disons, mettre à disposition de la population toutes les raisons qui ont fait que aujourd'hui qu'il y ait des crashs à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Mais alors, on va terminer notre entretien avec vous. Si on peut retenir une chose, monsieur Yuma, disons, toutes les réactions qui sont arrivées là-bas ne vous concernent pas directement parce que vous êtes des Aborats. C'est pratiquement des questions posées à droit des décideurs. Je vois il y a notamment Irénée à Béni, Nord Kivu, qui dit ici à Béni, l'aéroport se trouve entouré des parcelles, les gens entrent dans les maisons lors du décollage. Bonjour, pourquoi la Russie et l'Ukraine ne contribuent pas à entretenir des avions Antonov? Comme c'est Bravo Air Congo, j'espère que les députés de l'opposition ne s'éteiront pas et plaideront pour la victime. Bon voilà, autant de questions qui ne vous concernent pas directement.
Oui, mais il y a une question peut-être qui concerne directement M. Yuma de Francis Vissot depuis Goma, qui nous dit, peut-on conclure qu'il n'y a pas de bons techniciens d'avion en République démocratique du Congo ?
Négatif, madame, je vais vous dire. Le cas d'Ewabora, c'est vraiment une exception. La preuve, c'est que Ewabora est la seule compagnie aérienne de la République démocratique du Congo qui ne figure pas sur la liste noire des compagnies interdites d'exploitation sur tous les territoires de l'Union européenne, vous le savez. Et je vais aussi vous dire qu'en 12 ans d'exploitation, Ewabora a opéré ses avions passagers et cargo en toute sécurité, sans déplorer un moindre cas de crash.
Parce que vous respectez, les normes.
Incontestable d'un professionnalisme avéré dans les domaines de l'aviation civile. Raison pour laquelle Ewabora actuellement est en phase, n'est-ce pas, de coopération avec Brussels Airlines pour augmenter notre capacité opérationnelle sur la République.
On en reparlera une autre fois, mais pour les autres compagnies aériennes, M. Yuma, on peut dire qu'il n'y a pas de bons techniciens d'avion, raison pour laquelle il y a eu tous ces crashs.
Bon, je ne veux pas m'engager sur ce terrain parce que je ne peux rien dire au sujet des autres.
Ewabora peut prêter ses services à...
Avec toute certitude sur Ewabora. Et je dois vous dire que Ewabora, actuellement, c'est la compagnie qui utilise plus de 50 ingénieurs aéronautiques.
Alors, une question de précision, Monsieur Yuma. Est-ce que les entreprises, disons, d'autres compagnies aériennes, peuvent-elles recourir aux services de Ewabora, surtout au niveau de la maintenance?
Ah, sans aucun problème, monsieur le journaliste. Nous avons toujours tendu la main à qui veut bénéficier de notre expertise. Et nous sommes bien capables de pouvoir le faire parce que...
Mais à toutes les bourses, j'espère bien.
Nous entretenons quand même des avions.
Oui, à toutes les bourses, ce n'est pas si cher que ça.
Ben, ça dépend du type d'entretien, parce qu'un avion, ce n'est pas un bijou. Hein. Ce n'est pas, je vais dire, un jouet. Hein. Un avion, c'est une machine.
Alors, parlons d'un entretien simple. Ça peut aller, autour de combien?
Bon, un entretien simple, prenons le cas d'un chèque B. Un chèque B avec 50 000 dollars, je crois, on peut le réaliser sans problème.
Oui.
C'est un chèque qui se fait toutes les 750 heures de vol. Et vous voyez, pour un avion qui vole pendant 50 heures par mois, parce que il faut reconnaître que les avions ici chez nous ne volent pas beaucoup, c'est entre 50 et 100 heures de vol. C'est au bout d'une année réaliser 750 heures de vol. Et si on doit dépenser 50 à 100 000 dollars pour pouvoir mettre l'avion...
Pour sécuriser la vie des passagers, ça serait une bonne chose. Monsieur Yuma, nous rappelons que vous êtes directeur technique à la compagnie d'aviation Ewabora. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Je vous en remercie. Merci. Au revoir.